mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour aux auditeurs. Bonjour Jean-Louis. Que nous proposes-tu comme thème cette semaine?
Si nous nous intéressions au western.
Au western? Nous avons déjà discuté cinéma à propos de Gérard. Là, tu focalises la question.
Plus encore que tu n'imagines. Car j'ai en tête non pas tous les westerns, mais deux en particulier. Et bien sûr parce que ces deux-là sont d'excellentes démonstrations des mécanismes de l'anthropologie de René Girard. En particulier, le mécanisme du bouc émissaire.
Quels sont donc ces deux westerns? S'agit-il de films connus?
L'un est archi-célèbre et l'autre est un chef-d'œuvre méconnu. Le premier est un classique de John Ford, sorti en 1962, L'homme qui tua Liberty Valance, avec James Stewart, John Wayne et Lee Marvin. Le second est un film plus ancien, de 1942, avec Henry Fonda. Il s'intitule en français L'étrange incident et a été réalisé par William Wellman.
Comment vas-tu t'y prendre pour nous expliquer la dimension gérardienne de ces films? Nous ne les avons pas forcément en tête, pas même le plus connu.
Je vais résumer leurs intrigues respectives en tâchant de ne pas dévoiler les dénouements. Puis nous examinerons en quoi l'anthropologie de René Girard y est présente.
Deux questions, Jean-Louis. Tout d'abord, les intrigues sont-elles seules à refléter des mécanismes girardiens? Ou bien le langage cinématographique y ajoute-t-il quelque chose? Et ensuite, le genre de western est-il particulièrement propice au dévoilement des mécanismes girardiens? Mimétisme, rivalité, bouc émissaire?
À tes deux questions, les réponses sont positives. Oui, le langage du cinéma permet une prise de conscience particulière de l'anthropologie mimétique. Et oui, le genre du western recèle encore un petit plus tout à fait spécifique. Je te propose de passer en revue ces films et de revenir en conclusion sur ces deux points.
D'accord.
Résumons d'abord le scénario de L'homme qui tua Liberty Valance. Une petite ville de l'Ouest américain, Shinbone, vit sous la coupe d'un pistolero brutal, Liberty Valance. Arrive Ransom Stoddart, un jeune avocat de la côte Est, incarné par James Stewart. Il veut établir le droit dans la région et rejette l'utilisation de la force pour cela. Dépouillé de ses biens et maltraité par Liberty Valance dès son arrivée, il survit comme homme à tout faire dans une cantine. Puis il ouvre une école et accueille des enfants comme des adultes. Il trouve des alliés, avec le reporter et éditeur du journal local, ainsi qu'avec Tom Doniphone, un éleveur, meilleure gâchette de la région. Le rôle est tenu par John Wayne. La présence de Ransom Stoddart apporte la perturbation dans la ville. Il humilie le shérif en lui reprochant de ne rien faire face à Liberty Valance. Les habitants sont divisés quant à le soutenir et la jeune femme dont Tom Doniphone était pris se tourne vers lui. La spirale des tensions aboutit à un duel entre Liberty Valance et l'avocat. Celui-ci est promis à une mort certaine, car il ne sait même pas tenir un pistolet. L'issue est inattendue, je n'en précise pas davantage les circonstances pour laisser le plaisir de la découverte à ceux qui auraient envie de voir le film. Ransom Stoddart deviendra député, puis sénateur. Il fera construire des écoles, des hôpitaux, une digue pour préserver la ville des crues du fleuve, etc. Bref, il sera le bienfaiteur de la région et sera même pressenti comme vice-président des États-Unis.
Où trouvons-nous l'anthropologie mimétique dans cette histoire?
Nous la trouvons dans le parcours même de Ransom Stoddart. Souvenons-nous du mécanisme révélé par Girard. Une communauté est en crise, l'hostilité règne entre tous les membres. À un moment, les antagonismes se cristallisent sur un bouc émissaire. Tout le monde se persuade qu'il est le responsable de la crise et son lynchage ramène la concorde. Lui qui était accusé d'être la source de la crise, il est alors perçu comme un sauveur. Les sociétés archaïques le divinisent. La trame du film est conforme à ce schéma. Une petite ville vit dans la terreur que fait régner Liberty Valance. C'est une situation de crise. L'arrivée de l'avocat Ransom Stoddart la révèle, obligeant les habitants à se prononcer entre la soumission à Liberty Valance, comme le shérif, et la lutte contre lui, comme le reporter. Un seul point unit encore les habitants. Il faut que Ransom Stoddart, un étranger, s'en aille. Ceux soumis à Liberty Valance le veulent, mais les amis de Stoddart, comme Tom Doniphone, le lui conseillent également. Bref, il est expulsé par tous. Indice qu'il est bien un bouc émissaire. Puis le voilà embarqué dans un duel où toute la ville vient assister à sa mort annoncée. Encore un indice dans le même sens. Enfin, il survit à cet épisode et devient le bienfaiteur de Shinbone. C'est très exactement le schéma du bouc émissaire. Quelqu'un à qui l'on attribue la responsabilité d'une crise qui existait déjà, son supplice, puis sa divinisation. Ce que Girard appelait le meurtre fondateur. Et ici, il s'agit bien de la fondation d'une nation, les États-Unis, avec la mise en place de l'État de droit dans l'Ouest, jusque-là livré à la loi du plus fort.
Il y a tout de même un petit problème, Jean-Louis. L'avocat Ransom Stoddart n'est pas lynché, il survit au duel.
Le film raconte une histoire réaliste, et non mythique ou archaïque. Il ne peut pas y avoir de créature qui soit d'abord lynchée, puis qui continue à influer sur la communauté en tant que divinité. Il faut donc une victime de substitution, et c'est Liberty Valance qui joue ce rôle. Mais le vrai bouc émissaire est bien Ransom Stoddart. Il est blessé lors du duel, vrai signe de son lynchage. Et la mort de Liberty Valance est le résultat d'un tour de passe-passe sur lequel je garde le silence. L'élection de Ransom Stoddart comme député est un symbole de sacralisation, et son action ultérieure est bien celle d'une sorte de divinité bienfaisante.
Nous passons à l'autre western ?
Allons-y. Voici la trame. Deux étrangers arrivent dans une petite ville. Nous apprenons que le bétail d'un fermier des environs a été volé et que lui-même a disparu, sans doute assassiné. En l'absence du shérif, la population s'excite et décide d'une chasse à l'homme. En danger d'être suspecté, les deux nouveaux arrivés s'y joignent. La troupe écume les environs. Elle rencontre un convoi dans lequel se trouve une femme que l'un des nouveaux arrivés était venu chercher. C'est le rôle tenu par Henry Fonda. Il découvre qu'elle n'a pas eu la patience de l'attendre et en a épousé un autre. La troupe continue ses recherches et intercepte une famille. Sans preuve très probante, tout le monde décide que l'un d'entre eux est coupable. Il est capturé, puis après un pseudo-débat, pendu. Le personnage joué par Henry Fonda ne réagit pas, bien que nous comprenions qu'il ne croit pas à la culpabilité de la victime. De retour à la ville, la troupe apprend que le fermier est sauf. Il n'y a eu aucun assassinat. Le malaise est général. Dans le saloon, le personnage interprété par Henry Fonda lit alors une lettre posthume que lui a remise le malheureux pendu. Il y réitère son innocence et donne son pardon à ses lyncheurs. Le film s'achève avec le départ des deux étrangers.
Là, Jean-Louis, c'est très clair. Le mécanisme du bouc émissaire est parfaitement mis en œuvre, en particulier l'un de ses points clés, l'innocence de la victime.
En effet, l'anthropologie de Girard est par ailleurs présente dès la première scène. Le personnage d'Henri Fonda est fasciné par un tableau accroché dans le saloon. Il représente une femme recherchée par un individu sombre et inquiétant. Avec le triangle constitué des deux personnages du tableau et du cow-boy incarné par Henri Fonda, cette séquence offre une visualisation directe du désir mimétique. Une autre séquence est remarquable, celle dans laquelle Henri Fonda lit la lettre d'adieu qu'a écrit le captif en attendant sa pendaison. Comme dans le film précédent, mais par un moyen différent, cela permet de faire jouer un rôle à la victime émissaire après son lynchage. L'essentiel de la lettre réside dans son pardon à l'égard de la troupe de ses bourreaux, acte qui tend à le diviniser, ou en tout cas, à en faire un personnage christique.
Tu nous dois deux réponses, Jean-Louis.
La première est de dire si le langage cinématographique apporte une spécificité à la compréhension des mécanismes girardiens. Je crois que oui. Dans le second film, je retiens la séquence du tableau, qui permet de percevoir directement le désir triangulaire. Nous y trouvons aussi la possibilité de ressentir de l'intérieur l'épreuve que traverse un bouc émissaire. Nous nous identifions au personnage joué par Henri Fonda, qui lui-même s'identifie au jeune homme lynché. Les deux acteurs se ressemblent d'ailleurs physiquement. Le personnage d'Henri Fonda, un étranger tout juste arrivé dans la ville, aurait très bien pu être aussi choisi comme bouc émissaire. Il lit la lettre de la victime dans un plan très expressionniste. On ne voit que ses yeux. Le reste du visage est caché par la lettre et on pourrait croire qu'il s'agit de l'homme qui a été lynché.
Et le western est-il plus propice qu'un autre genre cinématographique à illustrer l'anthropologie de René Girard ?
D'une certaine façon, oui, car la conquête de l'Ouest permet de raconter de façon réaliste et relativement proche le passage de communautés où régnait la loi du plus fort à des sociétés organisées selon le droit. Le premier film illustre comment ce passage se fait à partir d'un meurtre fondateur, ainsi que le voyait René Girard.
La théorie girardienne explique aussi que les sociétés se dissimulent à elles-mêmes cette violence originelle, soit en la refoulant, soit en faisant un acte juste.
C'est ce que fait le premier film, L'homme qui tua Liberty Valance. Même les spectateurs d'aujourd'hui sont ravis de voir le méchant se faire punir. Après tout, c'est indispensable dans un western. C'est peut-être pour cela que L'étrange incident reste un film un peu méconnu. Il lui manque le duel final libérateur.
En tout cas, voilà qui donne envie de les voir ou les revoir. Merci Jean-Louis, à bientôt.
Au revoir Catherine, merci aux auditeurs.